Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull. Nous sommes le 11 mars 2025 et voilà, ça y est, cette fois, on s'est pris une toute petite baffe quand même dans les marchés boursiers. Alors, franchement, je vous avoue, je ne l'attendais pas du tout parce qu'en plus, je suis même pas encore dans l'avion. Ce matin, je vous fais une vidéo depuis ma cuisine parce que j'ai pas le temps d'aller directement au studio. Donc, on va passer par la case cuisine parce que je voulais quand même vous parler un petit peu de tout ça. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que là, on vient de vivre un truc complètement hallucinant hier parce qu'il n'y avait pas forcément d'énormes raisons de se prendre une baffe comme ça, même si à la fin on peut quand même trouver des justifications. Alors, on pensait pas que ce serait aussi violent et pourtant ça a été quand même un sacré bain de sang aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais quand même un sacré bain de sang. Donc on fait quand même le point. Je fais ça rapidement parce que dans 2 heures je dois me casser et je dois décoller. Donc du coup, je vous fais la version rapide. Voyons voir un petit peu ce qui s'est passé hier dans le monde merveilleux de la finance qui a complètement craqué. La claque attendue est donc arrivée, pire que DeepSeek, pire que la première mise en place des tarifs douaniers, le fait que Trump n'ait pas prononcé le mot récession, on en a parlé hier, mais que surtout il n'ait pas réfuté la possibilité d'une récession, eh bien ça a complètement eu raison de nos superbes théories sur la croissance infinie, la machine à pognon de l'intelligence artificielle, le fait que les robots taxis vont se balader partout dans quelques mois et faire monter Tesla à 1 500 $ et que la tech à ces niveaux-là, c'est quand même pas cher. Et puis on n'oublie pas non plus le fait que la Fed est notre amie et qu'ils vont bientôt baisser les taux. Enfin, le marché vient de vivre sa pire journée depuis 3 ans et comme je vous le disais avant, je suis même pas encore monté dans l'avion. Nous ne sommes donc pas encore en mode crash boursier. Mais probablement qu'on n'y sera pas de sitôt puisque depuis hier, tout le monde parle de crash, tout le monde voit que les niveaux de trouille sont juste monumentaux, que la volatilité elle atteint des niveaux stratosphériques, on a quasiment 30%. C'est souvent un niveau qu'on utilise pour dire tiens, c'est peut-être pas complètement idiot si je commence à racheter à ces niveaux-là. Mais disons que la claque monumentale d'hier a fait prendre conscience que oui, le marché peut encore baisser. Après pratiquement 18 mois d'invincibilité contre les vendeurs et de rebond réguliers, rebonds qui ont été générés en général par des acheteurs qui étaient méga convaincus qu'après 5% de baisse, c'est quand même pas cher de bleu. Ben voilà que le Nasdaq est entré violemment en zone de correction, je vous en parlais hier, en disant qu'il serait bien qu'on n'y rentre pas, ben voilà c'est fait. Et au vu de l'ampleur du mouvement d'hier, ben les marchés sont quand même carrément en train de parler de bear market, ça on voit partout dans les médias. Je rappelle pour mémoire qu'une zone de correction, c'est 10% de baisse depuis les plus hauts et que le territoire des ours, autrement dit le bear market, c'est 20% depuis les plus hauts. Alors actuellement, pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, le Nasdaq 100 est en baisse de 12,6% depuis les plus hauts. Le composite abandonne déjà 13,5% et le SOX, si vous prenez les plus hauts du mois de juillet de l'année passée, on est en baisse de 25%. Rappelez-vous, le SOX, leading indicator à surveiller quand même. Mais le problème dans ce bain de sang technologique, c'est surtout que les Magnificent Seven se sont fait littéralement massacrer. Alors, depuis quelques jours, rien qu'à E7, ils pèsent tellement lourd qu'on commence à prendre conscience de la problématique de l'ultra-concentration. C'est pas qu'on n'avait jamais abordé le sujet, bien au contraire, mais là, on est en train de mieux comprendre le principe, tout simplement, par la pratique et par la réalité des faits. Nvidia a donc perdu 28% depuis ses records de début janvier et en plus, ils ont sorti des chiffres qui étaient excellents au mois de février. Je me demande ce que ça aurait été si ça avait été un profit warning. Microsoft a sorti également des superbes chiffres le mois dernier, mais le titre est en baisse de 18% depuis les plus hauts. Ensuite, l'addition se monte à 19% pour Meta, 12% pour Apple, 20% pour Amazon, 19% pour Google. Et pour ce qui est de Tesla, c'est le bain de son total puisque la société qui était et qui est toujours censée inonder le marché de robots taxis qui roulent tout seuls et qui bossent pour leurs propriétaires, Tesla est en baisse de 53% depuis les plus hauts du mois de décembre. Rien qu'hier, la société d'Elon Musk s'est faite massacrer de 15% sur la séance. Parce qu'il y a un analyste, celui d'UBS, qui a coupé ses attentes de vente pour de 20% quasiment, puisque plus personne ne veut rouler en Tesla et que les autocollants « j'ai acheté une Tesla avant qu'Elon Musk devienne dingue » se vendent de plus en plus pour déculpabiliser les propriétaires actuels. Bref, hier, la tech s'est fait massacrer. Les 7 magnifiques ont perdu collectivement plus de 750 milliards de market cap. Ça fait quand même un paquet de yachts et de Bugatti qui sont partis en fumée dans la nuit. Et tout le reste du marché a suivi comme un seul homme. Les banques se sont fait bien sûr allumer parce qu'on sait tous que si on rentre en récession, bah, les premières à en prendre plein la figure, ce sera forcément les banques. Vous avez eu Delta Airlines qui a plus ou moins fait un profit warning après avoir déclaré qu'il ressentait que la confiance du consommateur était en train de s'éroder. Alors je ne sais pas comment ils font, peut-être que chaque fois qu'il y a un passager qui monte dans l'avion, ils demandent si « Alors, vous avez confiance? Vous n'avez pas confiance ?» On ne sait pas, mais en tous les cas, ils sentent que la confiance du consommateur est en train de s'éroder et ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre. Et puis Novo Nordisk qui a publié des résultats de son nouveau médicament contre l'obésité, le CagriSema, et les résultats de l'étude sont décevants. Alors décevants parce qu'il permettrait de ne perdre que 15,7% du poids de corps en 68 semaines, alors que les experts tablaient sur une perte de 20%. Vous vous rendez compte? Le titre s'est pris 10% dans la gueule parce qu'un type qui pèse 120 kg et qui prend du CagriSema ne perdra que 18,84 kg en 16 mois, alors qu'on espérait qu'il en perde plutôt 24. Novo Nordisk a donc perdu 10% de sa valeur parce qu'un mec ne perdra pas assez de poids dans les 16 prochains mois. S'il y a une nouvelle qui prouve que ce marché est complètement débile, bah c'était peut-être bien celle-là. Enfin, quoi qu'il en soit, depuis le début de l'année, les marchés crypto plus les bourses américaines ont effacé quelque chose comme 5500 milliards de capitalisation. Tout ça s'est volatilisé en quelques semaines à cause de deux choses. L'incertitude liée aux droits de douane, puisque personne ne comprend où veut en venir le président américain, et surtout, quand est-ce qu'il va nous lâcher avec ces histoires de tarifs, et puis les craintes subites de récession. On va surtout s'attacher à ça. Oui, parce que si hier les marchés se sont fait déglinguer, c'est surtout à cause de l'histoire de Trump. Le président a donné une interview dans laquelle il a refusé de dire que nous allons entrer en récession, mais il a également refusé de dire que nous n'allons pas entrer en récession non plus. Et comme le marché est un tout petit peu pénible et très intolérant au manque de clarté en ce moment, tout est parti en vrille. Pour être très franc, j'ai pas l'impression qu'on a eu une énorme nouvelle qui a tout foutu par terre, une nouvelle concrète. C'est plus à cause de la lassitude. Je crois que tout le monde en a ras-le-bol de danser sur un pied ou sur l'autre en attendant que l'équipe de la Maison Blanche se mette d'accord sur les droits de douane, contre qui et à quelle date, comment et sous quelle forme. Et encore, hein, si on se contentait d'avoir des tarifs qui sont fixés une fois pour toutes, comme je vous le disais hier, on pourrait gérer, mais là, ça change toutes les trois semaines. Toutes les trois heures, pardon. Mais là, depuis le mois de janvier, c'est ça s'en va, ça revient, un coup, je te colle des tarifs, un coup, je te les enlève, tu avances, je recule, et puis demain, on refera la même danse, mais dans l'autre sens. Les marchés en ont donc plein de ces tergiversations, excusez-moi pour le vocabulaire, mais il n'y a pas de traduction ou de synonyme acceptable en ce moment. Si je vous dis « Ouh là là, les marchés sont lassés de tout ce qui est en train de se passer », c'est pas assez fort. Donc on en a eu marre et ça a donné une journée en mode bain de sang sur les bourses mondiales. Tout ça parce que Trump a donné une interview dans laquelle il a bien expliqué qu'au vu du chantier mis en place pour reconstruire la richesse américaine, il y aurait des moments compliqués et que ça ne serait pas simple. Traduction, si on prend le temps de lire entre les lignes, il se pourrait bien que le temps que les choses se mettent en place, l'économie puisse éventuellement peut-être, à un certain moment, entrer en récession. La réaction et la facture a donc été présentée hier, et ce matin, on se retrouve avec un marché paré de rouge sang, tout un pan du secteur technologique qui s'est littéralement effondré. Alors maintenant qu'on est au fond du bac, et qu'on s'est pris une claque monumentale, la première grosse claque de l'année, aussi une claque qu'on n'avait plus prise depuis 2022, que le Nasdaq a baissé de 12% en 13 jours de bourse, que le volume total des poutres sur le marché US vient d'atteindre son plus haut niveau historique, que de nombreuses grandes capitalisations technologiques sont en baisse de près de 30% par rapport à leur plus haut historique, et que la volatilité et le greed and fear atteignent des niveaux extrêmes, on peut quand même se demander si on n'est pas tout simplement en train de se préparer le short squeeze de l'année, voire de la décennie. D'ailleurs, si on regarde simplement le futur Nasdaq entre hier soir à la clôture et ce matin, on voit qu'il était franchement en baisse juste après la clôture et il a repris près de 350 points. Et là, ce matin, quand on regarde sur les écrans, on est dans le vert. Sans vouloir trop s'avancer, on peut clairement se dire qu'hier a été une grosse journée d'interrogation avec un vent de panique sur le thème de la récession. Mais concrètement, j'ai quand même l'impression que le sell-off d'hier a surtout été initié par un ras-le-bol général au niveau des tarifs douaniers et que l'interview de Trump aura surtout servi de prétexte pour aller chercher les stop-loss et faire paniquer tout le monde. Alors la suite de la semaine, j'espère que ça nous permettra, enfin surtout vous parce que moi je serai pas là, mais ça nous permettra d'y voir plus clair. Et j'ai l'impression que mes vacances vont surtout se passer quand même devant mon écran à surveiller ce qui se passe, histoire de voir si ça vaudrait peut-être pas la peine que je vous fasse une vidéo pour vous raconter quelque chose. Pendant que les Américains se transformaient en ours et simulaient la panique totale, l'Europe, elle aussi, eh bien, elle devait gérer ses propres problèmes. Et un des problèmes en Europe, c'est surtout le fonds de soutien de l'Allemagne. Vous savez, ce fameux fonds dont on a parlé la semaine dernière, qui a été annoncé en grande pompe, eh bien, depuis hier, on commence à douter qu'on puisse réellement le mettre en place. Parce que pour ça, bah, le nouveau gouvernement allemand va devoir le passer au Bundestag et qu'il aura besoin de la majorité des deux tiers au Parlement pour valider ce chèque de 500 milliards. Et depuis hier, on s'est rendu compte que sans les écologistes, ça allait être compliqué. Et les écologistes, justement, eh ben, ils ont mis les pieds au mur parce qu'ils estiment que ce projet est mal ficelé. Et sans les écolos, le projet mirifique de la droite allemande pourrait tout simplement rester dans les cartons. Inutile de vous dire que si les 500 milliards promis pour Markt Deutschland wieder groß ne sont pas mis sur la table comme prévu, ça risque de piquer pour certains investisseurs qui comptaient quand même là-dessus pour justifier les valorisations un tout petit peu débiles de certaines actions allemandes. Hier, l'Allemagne a donc baissé de seulement 1,69%. Par rapport au Nasdaq, c'est rien. Et on est vraiment impatient de suivre la suite du drama qui est en train de se dérouler au Bundestag. Mais je dois dire que ça deviendrait tout de même assez risible si un gouvernement de droite, élu par le peuple pour relancer l'économie, ne pouvait pas le faire, ne pouvait pas mettre ses réformes en place à cause d'une équipe d'écologistes qui ne peuvent même plus acheter de Tesla parce qu'Elon Musk est un con. Et qu'en plus de ça, ça remettrait également en question les achats d'armement qui ont été prévus pour sauver le monde de la menace russe. Oui, parce que dans la foulée, les écolos proposent également de resserrer les boulons et des dépenses sur l'armement. En résumé, mais si la droite veut passer son plan de relance, bah, il va falloir que l'armée allemande aille se battre contre les Russes en vélo pour leur lancer des tomates et des légumes avariés parce qu'il faut surtout pas trop dépenser. Alors concrètement, je pense que la journée d'hier est une aberration technique et qu'il y a de l'espoir. Mais d'un autre côté, je me demande ce qu'ils fument dans certains gouvernements pour qu'à chaque fois ça frise le ridicule et visiblement, bah, c'est pas qu'en France. Ce matin, le Nikkei, évidemment, dans la foulée de New York, en baisse de 1,5%, Hong Kong perd 0,9%, la Chine limite relativement bien la casse, même si tout le monde parle de déflation là-bas et qu'ils vont tous mourir. Le marché chinois est en baisse de 0,5% pour le moment. La croissance du PIB japonais a été révisée à la baisse de 2,8 à 2,2%. Évidemment, ça consomme un peu moins apparemment au Japon, mais malgré tout, on est plutôt serein que la Banque du Japon devrait quand même faire des prochaines hausses de taux, parce que pour l'instant, l'économie est relativement solide et que l'inflation persiste. Et puis le pétrole s'est fait massacrer également, puisque avec les peurs de la récession, eh bien forcément, il y a le vieux réflexe qui s'est pointé, vieux réflexe qui dit si récession il y a, les gens ne vont plus mettre d'essence dans la voiture, votez écolo et allez bosser en trottinette. Du coup, le baril est à 65,93, toujours en dessous de son support, et l'or est à 2901 puisque même lui n'arrive plus à monter. Et puis du côté du bitcoin et des cryptos, je vous fais même pas un dessin, le bitcoin a cassé les récents plus bas, il s'établit, il avait fait un nouveau record hier à 76 600 au plus bas, et pour l'instant le BTC rebondit et se traite à 80 000 $ et des poussières. Une chose est certaine, c'est que même si les marchés se sont fait défenestré hier, j'ai pas l'impression qu'on commence la journée en étant terrifié. Bien au contraire, là tout de suite, je suis à deux doigts d'acheter des codes Tesla. Et puis alors, en ce qui concerne les nouvelles du jour, bah, il y a virtuellement pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout le monde parle de ce qui s'est passé hier. Tout le monde est en train d'analyser la claque de la journée d'hier. Et aujourd'hui, on va essayer de savoir si on a simplement assisté à un incident de parcours et puis que tout va se remettre en place normalement dans les jours qui viennent, ou si c'est vraiment le début de quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore complètement intégré ou maîtrisé. Alors, souvenons-nous quand même, juste quand même, que la semaine dernière, les données de la Fed d'Atlanta, le GDP Now, nous disaient que la récession était à nos portes. Reste maintenant à savoir ce qu'on va en faire. Non, parce que je me suis dit un truc, hein, tout simplement. C'est ma réflexion du matin. Je me dis, si l'économie US entre en récession à cause de tout ce que Donald Trump est en train de mettre en place et que l'inflation se pète la gueule, comme le prévoient les chiffres du Trueflation dont on parlait hier dans la vidéo de lundi matin, bah, il se pourrait quand même bien que la Fed arrive à la fin du trimestre sur son cheval blanc pour baisser les taux et venir ressortir son bon vieux put des banques centrales, histoire de soutenir l'économie. Ensuite, il manquerait plus que le plan de Trump fonctionne dans les prochains mois et on aura tout simplement un nouveau bull market. Ah oui, d'accord. D'accord, je reconnais, mon plan est un tout petit peu tiré par les cheveux, Mais en même temps, j'ai 10 jours de vacances pour peaufiner ma stratégie. Ben, du côté des chiffres économiques du jour aujourd'hui, on aura les jobs. Ce sera assez intéressant à observer, histoire de voir si notre théorie de ralentissement de l'emploi, de hausse du chômage et de récession va être un petit peu plus plausible. Et ensuite, il ne restera plus qu'à attendre le CPI de demain. Mais moi, je ne serai pas là. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on se revoit de toute façon ces prochains temps avec des nouvelles vidéos. Parce que même si je ne suis pas là, je vais quand même intervenir. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement. Donc soyez présents, surveillez attentivement la chaîne Swissquote en français. On va se reparler et si ça se trouve d'ici là, le S&P 500 sera de retour au-dessus des 6000 puisque ces trois dernières années, il n'est jamais resté très 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 longtemps en dessous de la moyenne de 200 jours. Pourvu que ça dure. En tout cas, très bonne semaine à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et nous on se revoit de toute façon très bientôt. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.